C'est pas du vent.
Der Klimawandel und alle, die hier im Raum sind, wissen das.
C'est pas du vent.
We must go further and faster together.
Le seuil de l'irréversible a été franchi.
C'est pas du vent.
Archipel, hunderte von kleinen Inseln.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Nous sommes à Bonn, en Allemagne, à l'occasion de la 23e conférence des Nations Unies sur le climat. Au-delà des négociations, ces conférences sont l'occasion de découvrir de nombreuses initiatives qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'aider les populations à s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Des alliances internationales comme des projets locaux, les initiatives climat pour l'Afrique francophone en font partie. Bonjour Benoît Théo.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur de l'ICAF, hein, c'est l'acronyme. Alors expliquez-nous la philosophie de cette démarche.
Alors ICAF, Initiative Climat Afrique Francophone, et en fait l'histoire d'ICAF se confond un peu avec l'histoire des COP, puisqu'on avait pris les premiers contacts à Paris à la COP 21, on avait lancé l'idée de ce projet, et puis qui a connu un premier aboutissement à la COP 22 et maintenant à la COP 23. Alors l'idée de base, c'est de dire, voilà, effectivement il y a des négociations internationales, les avancées pour nous ne sont pas suffisantes, les engagements de l'État ne sont pas à la hauteur effectivement des problèmes. Par contre, sur le terrain, il y a une multitude d'activités, d'acteurs associatifs, entrepreneurs, collectivités, qui sont très actifs, je dirais, dans le domaine de la lutte contre les effets du changement climatique. Et si on veut mobiliser l'opinion publique, il ne faut pas mobiliser uniquement sur les catastrophes actuelles et à venir, mais aussi sur ce qui se fait de façon positive. Voilà. Parce que l'objectif, c'est quand même de mobiliser quand même l'opinion publique et tous les acteurs concernés effectivement par cette problématique. Et donc, Initiative Climat recense les initiatives positives dans les pays d'Afrique francophone qui contribuent, alors, soit dans le domaine de l'adaptation ou de l'atténuation au changement climatique, mais qui peuvent servir, je ne veux pas dire de modèle, mais inspirer effectivement des acteurs dans d'autres pays. À ce jour, nous avons une base de données, nous avons reçu à peu près 450 projets. Nous en avons retenu 170. Donc la base de données en ligne comprend 170 projets conduits dans 21 pays d'Afrique francophone. Donc on montre aussi que c'est pas simplement un ou deux pays qui s'intéressent, mais c'est vraiment l'ensemble des acteurs. Alors avec des problématiques différentes, c'est vrai que au Tchad, on est plus préoccupé par l'avancée de la désertification. En Guinée, on a les problèmes qui sont liés à l'érosion du littoral et aussi aux réfugiés climatiques. Donc voilà, donc on essaie de recenser ces initiatives pour les faire connaître.
Mais vous ne faites pas que recenser, c'est-à-dire vous les triez évidemment, vous les sélectionnez sur des critères bien précis et vous organisez une espèce de concours avec des lauréats choisis chaque année.
Voilà, déjà, on aide les porteurs de projets à formaliser leur projet. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des acteurs qui faisaient des choses très intéressantes, mais ne faisaient pas forcément le lien avec le climat. Bon. Et puis, après ça, effectivement, il y a une sorte de sélection. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu motivant d'organiser des trophées avec des prix, mais c'est une façon, effectivement, d'impliquer effectivement, les acteurs du territoire. Et donc, depuis la COP22, nous organisons chaque année donc, les trophées Initiative Climat. Et les trophées ont été remis jeudi dernier à 10 lauréats de 8 pays.
Et nous avons la chance d'en avoir avec nous, donc des lauréats. Bonjour Komi Eden Koledi.
Bonjour madame.
Vous êtes lauréat du Togo. Alors, on a déjà fait une émission avec vous dans C'est pas du vent, il y a quelque temps, parce que vous êtes impliqué dans le compost donc à Lomé, au Togo, pour donc valoriser les déchets. Et vous êtes allé plus loin, et c'est pour cela que vous avez été récompensé au sein de cette initiative climat, puisque vous valorisez désormais à Lomé les déchets des abattoirs pour faire de l'énergie. Expliquez-nous ça.
Merci, madame. Il faut rappeler à l'auditeur que le Togo, comme tout pays de l'Afrique de l'Ouest, la plupart mangent les peaux d'animaux. Et donc ces peaux d'animaux, il faut faire l'équarrissage, enlever les poils sur les peaux. Or, ce que utilisent les gens, c'est que les gens utilisent les pneus. Et donc avec toutes les émissions qui sont derrière. Au-delà des pneus qu'ils utilisent, ils utilisent le bois, donc avec la déforestation. Pour éviter tout cela, on est confronté à la matière première. Où se trouverait la matière première? Or, on a rencontré que l'abattoir même s'est confronté à ces déchets de panses d'animaux qu'ils stockent à l'intérieur. Or, ces panses sont énormément organiques, donc peuvent contribuer à la fermentation anaérobie et donc produire du biogaz, d'où le début du projet.
Alors comment ça fonctionne?
Alors il faut dire que le projet a installé 8 biodigesteurs dans les 2 abattoirs annexes à Gwe et Gbosimé, et donc ces biodigesteurs fonctionnent normalement en introduisant donc de la matière première qui sont les bouses de vaches ou d'animaux ou les panses, et donc pendant la fermentation, il y a production du gaz. Or, si ce méthane-là arrivaient à s'échapper dans l'air, et donc c'est une émission. Donc s'ils passent par une énergie, par le feu, ils se brûlent pour donner le CO2 et l'eau. Ce qui nous permet de démontrer que nous contribuons à la réduction des émissions.
Et donc aujourd'hui, ça fonctionne bien à Lomé ?
Aujourd'hui, ça fonctionne bien.
Et vous avez des perspectives de développement ?
Et oui, nous avons des perspectives parce que ce projet a été recensé par un grand programme qui s'appelle Ressources, plateforme pour la promotion de la matière énergie à partir des déchets solides, qui est basé à Ouaga. Donc ce projet est déversé dans cette plateforme et qui permet de le diffuser dans l'Afrique francophone et les Caraïbes.
Donc, à suivre.
À suivre, madame.
Merci beaucoup. Johannes Goudjanou, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors vous, vous venez du Bénin et alors vous avez décidé de résoudre un peu le problème qu'il y a dans beaucoup de capitales africaines, c'est-à-dire avoir accès à des légumes sains en ville. Et vous avez développé donc un système de circuit court. Expliquez-nous.
Exactement. Il faut rappeler qu'au Bénin, il y a le problème de la mauvaise alimentation de nos populations urbaines et périurbaines. Et ce problème est dû à plus de 55 causes que nous avons minutieusement étudiées, dont les principales sont l'excessive utilisation des engrais chimiques. Autre chose, c'est le circuit de distribution très traditionnel qui ne permet pas aux produits d'être compétitifs au plan national pour l'être aussi au plan international.
C'est-à-dire que les produits locaux, finalement, se retrouvent à coûter plus cher que les produits importés.
Exactement. Et malgré la qualité de ces produits, il faut rappeler que ceux qui font l'effort de produits bio, leurs produits se confondent sur le marché et ils n'arrivent pas à s'en sortir.
Parce qu'il n'y a pas de label.
Exactement. Pour résoudre ce problème, nous avons voulu donc mettre en place une plateforme d'e-commerce des produits agroécologiques et d'appui aux producteurs. Appui pourquoi ? Parce que ces producteurs innovent. Ils sont des innovateurs verts, mais il ne suffit juste pas d'innover. Il faut également vendre, parce qu'ils sont des entreprises.
Et alors comment est-ce que vous faites pour faire le lien entre le consommateur et le producteur ? Ça se passe par une application ?
Exactement. Premium Hortus vient résoudre ce problème lié à la chaîne de distribution très longue, mais en permettant au consommateur final d'accéder directement à ses produits via une plateforme web et mobile. Donc, tout consommateur peut déjà planifier sa commande, valider, se faire livrer ses produits biologiques à domicile, payer en ligne, ne pas perdre du temps. Et l'autre chose que nous faisons actuellement, qui est en collaboration avec certaines banques, c'est ce que nous appelons le crédit d'assurance alimentaire. Parce que nos études ont montré qu'il y a des fonctionnaires qui en un mois, vivent au moins 5 jours qu'ils jugent de salés. 5 jours où ils n'ont pas le minimum pour survivre à leurs besoins. Alors, avec Premium Hortus, ils peuvent déjà, étant fidèles, bénéficier de ces produits et se faire payer dès qu'ils auront les salaires.
Et alors aujourd'hui, ça existe à Cotonou uniquement ou dans tout le Bénin ?
Actuellement, nous implémentons la plateforme à Cotonou, puisque nous avons commencé à Abomey-Calavi. C'est une ville périphérique de Cotonou. Et notre ambition, c'est de couvrir tout, pourquoi pas tout le Bénin, et également couvrir la sous-région.
Et ça concerne aujourd'hui combien de producteurs, combien de consommateurs ?
Actuellement, nous avons un répertoire de plus de 700, d'une clientèle de 700 clients, répartis notamment en producteurs, en restaurants, hôtels et ménages. En dehors d'eux, nous avons quelques collectivités locales qui organisent des activités auxquelles nous participons en tant que partenaires.
Et avec des prix compétitifs ?
Oui, avec des prix compétitifs, puisque la demande est déjà maîtrisée avant la production.
Vous avez de fortes perspectives de développement, vous aussi.
Exactement.
Merci beaucoup et bravo pour ce beau projet. Binetta Camara, bonjour.
Bonjour Anne.
Vous êtes venue du Sénégal et alors vous avez été récompensée, lauréate, pour un système d'éoliennes. D'éoliennes qui vont et qui changent déjà la vie des femmes. Expliquez-nous pourquoi.
Vous savez, comme dans tous les pays africains, le Sénégal est confronté à un problème d'énergie. Énergie pour électrifier et énergie pour le pompage, pour l'irrigation des champs et pour l'approvision en eau potable. Donc nous, on s'est focalisé sur l'énergie éolienne parce qu'on a fait un constat en fait. Un constat qui va dans le sens que les énergies éoliennes ne fonctionnaient pas bien au Sénégal. Parce que parcourir l'axe Dakar-Saint-Louis, vous verrez un cimetière d'éoliennes là-bas.
Comment ça s'explique ?
Ben nous, pour avoir des réponses à ça, en fait, on a installé des mâts de mesure pour voir les problèmes liés à ça. On s'est rendu compte de un que les éoliennes qu'on avait implantées, en fait, commencer à produire avec des vitesses de vent élevées. Les moyennes au Sénégal tournaient aux alentours de 4 à 5 mètres par seconde. La deuxième chose, c'était que ces éoliennes-là, quand ils tombaient en panne, il n'y avait pas de pièces de rechange. Et la troisième chose, il n'y avait pas un pôle de compétences locales pour pallier à ces défaillances-là. Donc nous, on a travaillé sur un modèle qui existait déjà, c'est le modèle Pigot. Peut-être que vous en avez entendu parler, je ne sais pas.
Non, expliquez-nous.
Ok, donc Pigot, c'est le nom même de son concepteur. C'est un Écossais qui vit dans une île reculée en Écosse. Et donc, lui, il a conçu un modèle. Et il a même un manuel d'autoconcepteur de ces éoliennes-là. Donc, nous, nous sommes inspirés de ce modèle. Donc, nous, on a beaucoup amélioré le modèle Pigot. Et on a conçu une éolienne qui est complètement en phase avec les conditions climatiques locales. Elle démarre à 2 mètres par seconde. On atteint la vitesse nominale de production entre 7,5 à 8 mètres de vitesse de vent.
Et donc, à quoi sert cette énergie ?
À deux choses. Électrification rurale et périurbaine et exordo pour la provision en eau potable et pour l'irrigation maraîchère. Donc, je prends un exemple. Par exemple, on a postulé avec l'ONG Endapronat dans le projet PPI. PPI, c'est le projet des petites initiatives.
De l'UICN.
Voilà.
L'Union UICN, internationale pour la conservation de la nature.
FFM.
Le Fonds français pour l'environnement mondial.
Voilà. Donc, à travers ce projet-là, on a installé deux unités dans la zone des Niaïs. Parce qu'en fait, Enda s'était rendu compte, parce qu'eux, ils font de l'agroécologie dans cette zone-là, ils se sont rendus compte à un moment donné que les producteurs dépensaient beaucoup de leurs revenus dans l'achat de carburant. Parce qu'en fait, ils utilisaient des motopompes. Et non seulement les motopompes, il y a la pollution sonore, il y a la pollution de l'environnement, mais il y a aussi la pollution du sol, parce que le liquide suinte et ça pollue la nappe. Nous, on a installé ces éoliennes-là. Donc là, le producteur, tant qu'il a le vent, il produit et il remplit son réservoir quand il veut. Il a augmenté sa surface de production parce qu'on lui a installé des gouttes à gouttes pour l'utilisation rationnelle de l'eau. Et voilà, il peut utiliser de l'énergie qui est stockée pour autre chose. Soit il alimente un frigo solaire ou bien il fait de l'aviculture.
Et comme vous dites, et voilà.
Et voilà, ça résout des solutions, voilà.
Et donc c'est une éolienne faite par les Sénégalais, pour les Sénégalais.
100% made in Sénégal. Et on s'est débrouillé en fait pour avoir tous les composants au niveau local. La seule chose qu'on importe, ce sont les aimants et on importe de la Chine.
Et du coup, vous avez des prix aussi très intéressants, j'imagine.
Oui, c'est intéressant parce que l'éolienne en elle-même, elle coûte aux environs de 1 500 000. Maintenant, après,
France CFA.
Soit on est sur l'aspect pompage, il y a la pompe en plus, soit on est sur l'aspect électrification, il y a les batteries, onduleurs et les autres composants électroniques.
Et vous en avez installé combien ou ça touche combien
une
de personnes aujourd'hui?
Une quinzaine d'éoliennes.
Donc 15 éoliennes installées pour l'instant et j'imagine beaucoup de perspectives là aussi.
Oui. Et en 2015, on a été même nommé encore par la Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables. On a reçu le prix de la recherche et de l'innovation.
Félicitations. Et vous avez beaucoup de demandes aujourd'hui?
En tout cas, les collectivités locales s'intéressent à nous et on veut travailler dans ce sens-là. On est convaincu que, comme l'a dit tout à l'heure Benoît, ce sont les petites actions locales-là qui ont un impact vraiment visible sur les populations. Parce que c'est bon d'avoir des projets gouvernementaux, mais aussi, il ne faut pas oublier les petites actions locales, parce que ça, c'est très important.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Du denkst an Klimawandel, ich hör dich nach Weltgesetzen schreien und du denkst an CO2 und rufst, bitte schränkt es ein. Weltweite Katastrophen folgen Schuld, sollen die Menschen sein. Wir werden doch zu viel gefahren und nun wird die Welt zu heiß. Und wenn wir nicht bald irgendetwas tun, dann verbrennt das Eis. Die Flut wird uns fressen und die Zukunft wird hässlich sein. Doch nein, ich sag dir, du gingst da echt am Leim, weil den Wandel nicht der Mensch erschuf. Ja, ihr denkt, ich sei hier zu selten dämlich ohne Zurechnungsfähigkeit. Doch schaut man auf das Klimainstitut, dann erkennt man gleich, was sie tun. Denn sie manipulieren die Messung, heißt es Kamera. Es scheinen die Studien gefälscht zu sein. Es lud sich ein Hacker in Computer und Rechner ein. Und nun liest den Text der CAU, wenn sie lächeln. Nein, wir verdrehen Daten, dass Temperaturen beträchtlich steigen. Hört mir zu, alles ist Betrug, der unendlich reicht. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht.
Nein,
damit halten sie die Welt nur in Angst. Und alle, die es propagieren, werden Experten genannt. Und jeder, der ihnen widerspricht, wird abgestempelt als krank. Der Klimawandel wurde nicht vom Menschen gemacht.
Nein,
damit halten sie die Welt nur in Angst. Doch ich spreche es an, werd abgestempelt als krank. Nur weil ich zu eigenständigen Denken gelang.
Vous écoutez C'est pas du vent, installé au cœur de la 23e conférence des Nations Unies sur le climat. Nous parlons des initiatives climat pour l'Afrique francophone avec nos invités. Walid Machrou, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes venu du Maroc, vous êtes lauréat aussi de ces initiatives, parce que vous avez décidé de mettre en place une alternative à la consommation de bois pour lutter contre la déforestation dans une zone où il y a beaucoup de potiers. La poterie au Maroc, ce n'est pas rien, et les potiers avaient l'habitude d'utiliser le bois. Alors, c'est dans quelle zone exactement au Maroc ?
C'est au niveau du nord du Maroc. C'est à côté de la ville Ouadlaou. C'est un village dénommé Frenali. Et ces villageois ont détruit plus de 90% des arbres qui les entourent depuis 20 ans pour leur seule source de revenus qui est la poterie. Et au Maroc, c'est plus de 66% du bois de feu qui engendre cette grande déforestation de 30 000 hectares de forêt chaque année. Donc, c'est immense.
C'est immense. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez fait localement pour changer la donne ?
Donc, nous avons détecté ce grand besoin de marché des alternatives de bois et la grande disponibilité de déchets organiques comme les grignons d'olive, le marc de café, la sciure de bois. Nous avons combiné ces deux problématiques. Voilà, il y a la déforestation. Donc, on a un grand besoin de marché. On a la disponibilité de déchets organiques. Donc, on produit des biocombustibles à base de déchets organiques. C'est sous forme de bûches. Elle offre plus de 33% plus de pouvoir calorifique. Elle émet 35% moins de gaz à effet de serre.
Et donc, du coup, ces bûches, vous les distribuez aux potiers ?
Exactement. Donc, nous avons commencé par un pilote avec ces potiers. Nous avons commencé par des méthodes vraiment artisanales. En premier, c'était avec des pompes à bicyclette. Après, c'était avec des presses hydrauliques. Maintenant, on cherche à automatiser notre chaîne de production. Donc, nous avons déjà finalisé la conception des machines. On cherche déjà des fabricants qui ont assez d'expertise pour réaliser ces machines.
Et les potiers sont intéressés ? Ils ont adopté
Exactement. Donc
la
maintenant,
technique.
On est au-delà de la demande des potiers, on est vers la demande des hammams et même pour des petites industries qui ont des chaudières biomasse.
Il y a suffisamment de déchets organiques pour fournir ?
Je pense que c'est pour chaque huilerie à la ville à côté de Frenali, c'est la ville voisine, elle émet chaque année plus de 2000 tonnes de déchets.
Ah oui.
Exactement, pour chaque huilerie.
Donc ça vous laisse de la marge.
Exactement. Et même pour les entreprises qui font du bois, c'est à peu près 5 tonnes par jour.
Et alors, est-ce que vous reforestez ? Parce que les arbres qui ont été coupés, par définition, ils ne poussent pas tout seuls.
Exactement. Donc, ce qu'on envisage à faire, on envisage à collaborer avec plusieurs organismes qui font le reboissement de bois. Donc, nous, de notre côté, on fait l'alternative et eux, ils compensent par le reboissement de bois. Donc, c'est participatif.
Et vous êtes combien dans cette aventure ?
Nous avons commencé au sein d'un club universitaire qui s'appelle Enactus. C'est la grande organisation de l'entrepreneuriat social. Nous avons commencé avec 14 membres et maintenant on est 3 cofondateurs d'une entreprise SARL.
Donc en plus vous créez des emplois ?
Exactement. Et on est juste des étudiants maintenant. Je suis encore en licence en design industriel. Et notre cofondateur, il est juste lauréat avec son background génie organisation industrielle. On a une fille en sa dernière année en ingénierie.
Donc voilà, quand on est étudiant, on peut aussi innover, avoir des idées, créer des entreprises.
Exactement, et même créer de l'emploi pour nous-mêmes et pour les autres.
Merci beaucoup et félicitations.
Merci beaucoup, ça fait plaisir.
Et autre lauréat, bon, il y en avait une dizaine, il a bien fallu qu'on choisisse, on ne pouvait pas avoir tout le monde dans cette émission. Henri Totine, bonjour.
Bonjour.
Alors vous venez du Bénin, où il y a un fléau, pas seulement au Bénin, hein, c'est dans beaucoup de pays de la sous-région, qui s'appelle la jacinthe d'eau. Donc c'est une plante invasive qu'il y a dans beaucoup de rivières et de lacs dans cette région. Et vous avez décidé de transformer ce fléau en opportunité. Expliquez-nous.
Bien sûr, je vous remercie. D'abord, ma présence ici parmi les lauréats en tant que nominé, c'est juste que mon gouvernement du pays a trouvé très intéressant ce que fait Initiative Climat et m'a donné l'opportunité de venir, de participer à la COP23 pour venir suivre, au fait, toutes les initiatives des lauréats de cette année et pour quand même me donner l'espoir l'année prochaine pour être parmi encore les lauréats.
Ah, on suivra ça. Voilà. C'est donc, pas grave d'être que nominé. Ce que vous faites est déjà formidable.
Voilà, donc... Et c'est dit que le gouvernement a trouvé très intéressant ce que fait ICAF. Donc, et au niveau de l'organisation Jeunesse et Emploi pour une économie verte, et nous avons choisi et travailler sur la gestion de la jacinthe d'eau parce que nous vivons dans une communauté lacustre. Et il n'y a que des zones humides, et c'est la vallée de l'Ouémé. Et là, nous avons constaté que la population est déjà agricole, mais utilise de façon abusive les intrants chimiques agricoles, que ce soit pesticides ou engrais chimiques. Donc, nous nous sommes dit, Et nous avons de la jacinthe et il y a des agronomes parmi nous. Et nous avons vu que la jacinthe comporte des oligo-éléments nutritifs pour qu'ils peuvent intervenir dans le domaine du maraîchage. Donc, on s'est dit, il faut transformer cette difficulté en opportunité parce que la jacinthe est une plante invasive et qui occupe la surface fluviale et empêche les activités quotidiennes des communautés de la vallée.
Notamment des pêcheurs, j'imagine.
Notamment des pêcheurs.
Donc, et vous récupérez cette jacinthe d'eau.
Voilà. Et nous la compostons. On fait un compostage à aérobie. Voilà. Et nous ajoutons aussi d'autres plants qui ont des effets biocides comme le neem et qui pourraient apporter l'effet pesticide. Donc, c'est un produit pluriactif au fait que nous avons à la fin, en même temps fertilisant et insecticide entre griffes. Voilà.
Mais donc, totalement naturel, du coup.
Totalement naturel. Donc, ça permet à la communauté de commencer par laisser ses mauvaises habitudes, c'est-à-dire l'usage abusif de ces intrants chimiques agricoles, et adopter le compost qu'on appelle compost magique. Nous l'appelons compost magique. Et je passe par là pour dire merci aussi à Joannès, puisque c'est grâce à sa plateforme que ce compost aussi circule pour que les gens puissent l'utiliser dans l'agroécologie. Donc, je remercie sincèrement ICAF, toutes les équipe d'ICAF. Et je remercie aussi la RFI pour son accompagnement. Merci.
Je vous en prie. J'ai pas fini avec mes questions. Je peux vous en poser encore une ou deux. au niveau des maraîchers, comment est-ce que vous avez fait pour les convaincre de changer leurs habitudes? Parce que ça, c'est très difficile en général.
Voilà. Et au fait, je vous ai dit tout à l'heure que le produit, c'est un produit pluriactif. Donc, à côté d'un paysan qui achète peut-être de compost et de l'engrais chimique, et je donne tout juste un exemple, à 25 francs, et va acheter quelques semaines après de l'insecticide à 10 francs, et à un produit pluriactif. Un produit pluriactif qui peut jouer en même temps les deux rôles, et à moindre coût, puisque la matière première que nous utilisons, c'est une matière première pérenne et qui n'a pas de coût, puisque c'est dans la nature qu'on va ramasser. Donc, du coup, le produit est à un prix vraiment...
Comme il est moins cher.
Voilà, donc il s'en approprie très facilement.
Et aujourd'hui, combien de maraîchers...
Et c'est à proximité aussi.
Oui, en plus.
Voilà.
Et aujourd'hui, combien de maraîchers donc, ont adopté votre compost magique?
Voilà, dans la vallée de l'Ouémé, il y a plus de 10 000 âmes qui vivent, et dont 70% et ce sont des maraîchers. Aujourd'hui, avec les statistiques, nous couvrons au moins 35% de la communauté des maraîchers que nous avons dans la vallée de l'Ouémé. Et on pense faire plus et avec l'amélioration de cette initiative et revenir en tant que lauréat l'année prochaine. Merci.
Ça, on a bien compris que vous aviez envie d'être lauréat l'année prochaine. Benoît Théo, il va falloir permettre donc à Henri Tautine de pouvoir reconcourir l'année prochaine. Et au-delà de ces lauréats, donc vous accompagnez les projets, on l'a bien compris. Et puis, vous lancez là, dans la foulée de cette COP23, des projets de coopération sud-sud pour aller plus loin simplement que l'identification des projets.
Ben, vous avez bien compris que les nominés, les lauréats sont des gens qui sont extrêmement dynamiques et engagé. Et donc, à la fin de la COP22, ils se sont dit, mais l'aventure ne peut pas s'arrêter maintenant, il faut qu'on continue. Et donc, il y a un réseau informel qui s'est créé de 19 correspondants dans 11 pays d'Afrique. Donc, réseau qui fonctionne maintenant depuis un an. Alors, bien sûr, dans un premier temps, ils ont diffusé l'information sur l'initiative climat. Ils ont essayé de contacter des porteurs de projets pour qu'ils soumissionnent à l'appel à projet 2017. Et puis, ils ont commencé à monter des projets de coopération sud-sud. Voilà. Parce que, bon, la communication, l'information, la valorisation d'initiatives, c'est bien. Mais à un moment donné aussi, il faut rentrer dans le hard, dans le dur.
Pour changer d'échelle.
Voilà, d'une part. Et puis surtout... profiter, je dirais, de l'expérience et de l'intelligence collective. Donc, sur des thèmes qui sont proposés par les correspondants au pays, on organise maintenant des actions de coopération sud-sud. Et donc, les praticiens se rencontrent, échangent leurs expériences, intègrent dans le groupe des gens qui sont intéressés par cette activité, qui n'a pas encore forcément démarré dans tel ou tel pays, pour pouvoir la reproduire chez eux. Donc, on a fait une première expérience au Sénégal sur l'autoconstruction des lampadaires solaires. Et donc, à l'issue de cette formation, les participants ont la possibilité de construire des ateliers dans leurs pays respectifs pour engager ce type de production, pour réaliser ce type de production. Et nous avons d'autres projets. Bon, on parlait du charbon écologique. Il y aura une action prochainement au Burkina Faso. Et il y aura une action aussi au Bénin dans le domaine de l'agriculture durable et des banques de semences résilientes au climat.
Donc, beaucoup de projets, d'échanges à partager. Si on est auditeur et qu'on entend cette émission, on se dit « Moi aussi, j'ai un projet, j'aimerais soumettre, j'aimerais rencontrer toutes ces personnes. Comment
fait-on ?» Alors déjà, le recueil Initiative Climat, il est riche d'expériences et d'enseignements. Donc, on peut conseiller à chacun de puiser des idées. Il n'y a pas de copyright. Les porteurs de projets sont très, très satisfaits, très contents.
C'est open source, comme on dit.
C'est open source. Ils sont très contents de partager leur expérience. Et on a des retours d'ailleurs assez, je dirais même quasiment émouvants, des gens qui disent mais attendez, ça y est, maintenant j'ai une visibilité sur le net, j'ai été contacté par les gens de différents pays, voilà, qui me demandent des informations sur ce que je fais, comment on peut travailler ensemble, etc. Donc là, voilà, développement d'un réseau, je dirais, informel. Bon, chaque porteur de projet a une fiche, est bien identifié, avec une personne contact, et donc les échanges en transversal se font facilement.
Donc un site internet.
Donc le site internet, donc initiative au pluriel, parce qu'il y en a quand même plusieurs, donc initiativeclimat.org, et puis bien sûr le compte Facebook, pareil, Initiative Climat, ça permet de suivre quotidiennement l'activité des correspondants pays et puis d'une façon générale des porteurs d'initiatives.
Voilà, et nous relayerons toutes vos coordonnées sur la page de l'émission. Tapez C'est pas du vent dans les moteurs de recherche. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour l'installation de ce studio au sein de la COP23 et la mise en onde et la réalisation de cette émission. Et merci à vous, bien sûr, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.
Des questions, des réactions ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.